Bienvenue dans ce nouvel enseignement donné par le ministère El Shaddai. Cet enseignement de la parole de Dieu sans compromis vous aidera à grandir spirituellement, à porter du fruit et à prospérer à tous égards comme le veut le Seigneur. Nous en souhaitons une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse.
Nous allons continuer donc notre enseignement sur l'Apocalypse.
Et
nous en sommes presque à la fin. Nous en sommes dans le meilleur
d'ailleurs.
Vous savez, il y a une chose qu'il faut bien comprendre. Quand Dieu a un plan, il
n'est
pas prêt de l'abandonner. Ce qu'il avait prévu de faire avec Adam et
Ève,
il le fera. Et ce sera avec nous. Parce que nous avons choisi de marcher avec lui. Adam et Ève, nous savons, ont cassé le plan de Dieu. Tout ce que Dieu avait prévu, ils l'ont mis complètement par terre. C'est pour ça que Dieu a dû se refaire un peuple. Normalement, l'homme sur la terre aurait dû régner selon la pleine volonté de Dieu. Dans l'environnement divin du jardin d'Éden. Et l'homme aurait dû se tenir correctement selon Dieu. Mais il a tout mis par terre. C'est pourquoi Dieu nous donne des révélations sur la fin des temps. On va commencer par un texte ce soir qui est dans Hébreux chapitre 11.
Parce
que tout à l'heure, je voyais ce parallèle et ça, c'est vrai que c'est assez parlant. Et vous voyez, Hébreux 11, rappelez-vous, ce sont les héros de la foi. Et par exemple, il est dit à partir du verset 8, c'est par la foi qu'Abraham obéit à l'appel de Dieu en partant vers un pays qu'il devait recevoir en héritage et il partit sans savoir où il allait. Donc on voit des hommes qui marchent avec Dieu, le Dieu qu'ils ne voient pas de leurs yeux. Bon, il va recevoir un pays en héritage, quelque chose de naturel, mais au travers d'une promesse spirituelle, bien sûr. Regardez bien, il est dit, c'est par la foi qu'il vient s'établir dans la terre promise, comme dans un pays étranger, habitant sous les tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob héritiers avec lui la même promesse.
Maintenant,
regardons bien le verset
10.
Car il attendait la cité, la ville qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Voyez, déjà il y avait des hommes et des femmes qui marchaient avec Dieu, qui avaient déjà la révélation de l'éternité avec Dieu. On est au temps d'Abraham. On voit qu'il y a une conduite par la foi. Par rapport à des promesses. Et je vous rappelle que la fin des temps, c'est toujours de se dire, voilà ce que Dieu a en réserve pour nous. Et d'après cette révélation divine, alors qu'est-ce qui se produit? Eh bien, moi je vais vivre par rapport à cela.
Vous
voyez, parfois, bon, il y a des choses très différentes que parfois les prédicateurs prêchent. Il y en a qui disent, oui, vous savez, de toute façon, ici, on ne pourra jamais rien faire de bien. Il y a des fardeaux, des problèmes. Pauvres petits chrétiens. On souffre. On doit passer tout ce temps sur cette terre, mais on attend le ciel parce qu'au ciel, au moins, on sera tranquille. Ça, c'est un travers qui n'est pas biblique. Et puis, il y a l'autre travers. Ou alors on a l'impression que déjà Jésus règne, le royaume est déjà là. Ni l'un ni l'autre ne sont scripturaires d'une façon équilibrée.
Non,
tu dois vivre ta vie sur la terre. En attendant quoi ? Cette cité qui a de solides fondements. Abraham a accepté de souffrir, d'être loin de sa famille, d'aller dans un pays qu'il ne connaissait pas, de subir des dangers, de perdre toute sa zone de confort, parce qu'il attendait quelque chose. Donc vous voyez, il vivait sa vie sur la terre avec la perspective de l'éternité. Et ça, c'est ce que la fin des temps doit nous enseigner. Regardez un peu ce qu'il est dit un peu plus loin, donc quelques versets plus loin. Il est dit verset 13, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin en confessant qu'ils étaient étrangers et résidents temporaires sur la terre. Ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Regardez bien verset 14. Ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils cherchent quoi ? Une patrie. Est-ce que tu cherches une patrie ? Est-ce que ton espérance vivante, ce que tu vis aujourd'hui, c'est toujours avec la perspective de l'éternité ? Ou est-ce que tu es un chrétien d'aujourd'hui ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que je vais vivre aujourd'hui. Qu'est-ce que le Seigneur peut me donner aujourd'hui ? C'est bien d'être béni, mais ce n'est pas l'objectif. Tu dois vivre, tu dois prendre tes décisions. Parce que tu cherches une patrie. Parce que tu sais qu'ici, tu es étranger et voyageur. Résident temporaire. Tu sais que ton visa va expirer. Ça veut dire que le jour où tu vas mourir, tu partiras d'ici. Sur ton passeport céleste, tu as un visa temporaire sur la terre. Par contre, ton passeport te donne la nationalité du ciel. Est-ce que tu comprends que c'est ce passeport-là que tu as, le vrai ? Nous avons tous des passeports ou un passeport dans le naturel qui nous donne un droit de vivre dans un pays ou qui peuvent nous faire vivre dans un pays étranger si on a un visa de résidence temporaire. Mais dans le spirituel, tu as un passeport. Le passeport du ciel. Citoyen du ciel. Et le visa temporaire, c'est ta vie sur la terre. Est-ce que tu réalises cela dans ta vie ? Est-ce que quand tu te mets devant ton Dieu, tu dis Seigneur, fais ce que tu veux avec ma vie. Ma vie t'appartient, Seigneur. Ce que je veux, c'est vivre vraiment pour ta gloire. Avec cette perspective de l'éternité. Parce que l'Apocalypse est une affaire de royaume. Le royaume éternel. Ce royaume qui n'aura jamais de fin. Ce royaume dont Daniel a vu cette petite pierre qui est venue frapper tous les systèmes de ce monde. Pour que ce royaume émerge. Qu'il envahisse toute la terre. Et ce royaume, Daniel l'a bien vu. Et l'ange lui a dit, ce royaume ne sera jamais renversé. Jamais renversé. Parce que le roi des rois est le Seigneur des seigneurs. Jésus que nous servons, c'est lui le propriétaire de cette terre et des cieux. Et personne ne viendra renverser son royaume. C'est pourquoi chaque jour tu dois comprendre ça. Et tu dois marcher en fonction de ça. Si tu le fais, tu auras une vie vraiment remplie de plein de choses passionnantes. Je
ne
te dis pas que ça sera facile. Je ne te dis pas que tu ne rencontreras pas des défis. Mais au moins tu accompliras quelque chose. Je
ne
serai pas comme beaucoup de chrétiens en train de rien accomplir. Parce que Dieu veut que tu accomplisses des choses.
Il
veut que tu fasses ce qu'il te demande. Et pour cela, que ton passage sur la terre ne soit pas simplement quelque chose qui est complètement inconnu de tous, mais que ton passage sur cette terre puisse laisser une marque dans l'histoire de l'humanité, parce que c'est ce à quoi nous sommes appelés, frères et sœurs, maintenant que chacun puisse le comprendre. Donc dans cet apocalypse nous avons vu plein de choses.
Et
bien, Dieu, Jésus s'est révélé dans le chapitre 1 à Jean.
Et
ce fameux message aux sept églises, 2 et 3, chapitre 2 et 3. Puis la gloire qui est dans le ciel, chapitre 4. Et puis à partir du chapitre 5, nous le savons, ça va être le début de la tribulation. Et là, nous avons mis des fondations. Nous avons étudié les systèmes de ce monde. Nous avons étudié l'enlèvement de l'Église. Nous avons étudié les 70 semaines d'année de Daniel. Donc j'espère que tout ceci n'a plus de grands secrets pour vous qui avez suivi tous ces enseignements. Donc nous avons vu tous les sauts qui vont frapper la terre. Dieu est l'auteur de la tribulation. L'objectif de Dieu, je vous rappelle, c'est que Jésus récupère la gestion de sa propriété à la fin de la tribulation. Pour ce faire, il va frapper la terre pendant 7 ans. Nous serons auprès du Seigneur. À l'enlèvement de l'Église, nous savons que c'est la première phase de la première résurrection. Et nous avons regardé toute la tribulation qui est extrêmement décrite à la fois dans l'Apocalypse, à la fois dans Daniel, dans plusieurs passages, entre autres Daniel chapitre 7, Daniel chapitre 9, Daniel chapitre 12. Et puis, nous avons aussi, bien sûr, Matthieu 24. Ensuite, nous avons vu que cette tribulation était coupée en deux. Nous avons expliqué beaucoup de choses, la montée de l'Antichrist dans la grande tribulation, la deuxième partie de la tribulation. Nous avons vu comment il va établir un gouvernement mondial. Et il va absolument vouloir contrôler chaque personne dans ce monde. Et nous savons que beaucoup de gens vont se convertir pendant la tribulation, surtout au début, ou avec l'enlèvement, les gens vont dire ces chrétiens avaient raison. Où est leur Bible? Où sont leurs DVD? Recherchons, ils vont chercher la foi.
Il
va y avoir une immense persécution qui va amener un épurement des convictions des gens. Donc nous savons que Dieu va accélérer ses jugements au 7e sceau. Il va y avoir les 7 trompettes. Et là, ça s'accélère. Satan réagit de plus en plus. Il essaye qu'un maximum de gens prennent la marque de la bête, c'est-à-dire faire cette alliance irréversible spirituelle avec lui. Beaucoup même de chrétiens vont renier Jésus à ce moment-là et perdre leur salut, et ça sera irrévocable. Et nous savons qu'à la 7e trompette, eh bien, Dieu va déverser 7 coupes de sa colère. Et les dernières coupes Dieu va tellement frapper la terre avec ses jugements, alors que Satan aura envoyé des faux prophètes, des faux Christ. Il aura fait plein de signes, de prodiges et de miracles sataniques pour séduire les gens. La terre sera dans un tel chaos. Dieu va envoyer vraiment ces deux dernières coupes de sa colère. Et nous le savons, c'est au chapitre 16, chapitre 17, chapitre
18.
Il va y avoir la grande prostituée, Babylone la grande, c'est-à-dire le symbole des systèmes de ce monde, qui vont s'écrouler. Parce que rappelez-vous, à la fin de la tribulation, c'est l'objet du chapitre 19, c'est la bataille d'Armageddon, c'est là où Israël est complètement au bout. Nous avons vu tout cela. Jésus revient. Les Israélites se convertissent en masse. Il y a un immense réveil en Israël. Toutes les nations du monde viennent et veulent détruire Israël. Et Jésus revient avec ses saints pour détruire l'Antichrist et toutes ses armées. La terre est dans un chaos gigantesque. Et nous savons qu'il y a une petite période de quelques dizaines de jours de transition. Jésus reprend donc la gestion de la propriété, de sa propriété. Et nous avons vu toutes ces paraboles à la fin de Matthieu 24 et Matthieu 25. Nous avons vu que Jésus fait mourir tous les inconvertis à la fin de la tribulation. Et il va ressusciter aussi, deuxième phase de la première résurrection, tous les martyrs en Christ pendant la tribulation. Et en fait, dans le millénium, nous avons vu Jésus va donc restaurer son royaume. Jésus règne à Jérusalem. Nous avons vu toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Jésus donc installe son pouvoir. Nous régnons avec lui. Nous savons que les martyrs vont quand même recevoir certaines récompenses. Ceux qui ont été tués pendant la tribulation, qui sont donnés à Christ pendant la tribulation et qui ont souffert et qui ont été tués par la persécution. Et puis, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir pendant 1000 ans des gens, parce qu'il y a des gens qui traversent la tribulation, qui sont nés de nouveau, qui ne meurent pas pendant la tribulation. Nous avons vu cela, ils vont pouvoir procréer, eux, avoir des enfants. Et là, il va y avoir des générations et des générations qui vont se faire. Il va y avoir longévité de la vie sur la terre. Mais il va y avoir des gens qui vont naître et qui vont mourir. Et nous allons exercer les jugements de Dieu parce que ces gens-là auront une chair et parfois ils vont pécher. Et le moindre péché sera réprimé à ce moment-là. Nous savons, Jésus est un théocrate. Ce n'est pas un démocrate. Donc il va régner. Et nous régnerons avec lui pendant ces 1000 ans sur ces nations qui vont naître et se multiplier sur la terre pendant 1000 ans. Nous serons les ministres, les généraux, les directeurs généraux. C'est nous qui allons tout gérer. Nous gérerons les médias, nous gérerons tout. Vraiment, nous gérerons tout sous le leadership du Seigneur. Les richesses naturelles seront vraiment partagées. Il y aura donc une très grande prospérité. La connaissance de Dieu sera transmise à tous ceux qui voudront l'entendre. Donc finalement, tout ce à quoi beaucoup de gens aspirent aujourd'hui, que ce soit la paix politique et de bons leaders, il y aura le meilleur des meilleurs et nous serons aussi dans les meilleurs sous le leadership du Seigneur Jésus-Christ. qui sera le roi des rois, qui fera les promesses, accomplissement des promesses pour Israël. Et en fait, ce qui va se produire aussi, c'est qu'il y aura une justice sociale totale. Personne ne sera chassé d'un emploi. Il y aura plein de boulot partout. Il y aura des bons salaires pour bien vivre. Tout le monde aura vraiment une justice et ça sera équitable. Par contre, quand quelqu'un va pécher, pas nous, nous ne serons plus capables de pécher.
Et
je vous dis, tous ceux qui auront encore un corps mortel, eh bien, seront jugés très sévèrement. C'est pour ça que la Bible dit de paître, que Jésus va paître les nations avec une verge de fer. Donc tout ça, ce sont des expressions que nous avons comprises. À la fin de la tribulation, à la fin du millénium, pardon, nous savons qu'il va y avoir une petite rébellion encore. Satan va être libéré puisqu'il avait été mis en prison au début du millénium. Et là, cette rébellion qui va se produire, nous l'avons vu, c'est avec des gens qui finalement obéiront à Dieu, mais pas de tout cœur. Ce sont des gens qui seront rebelles à l'intérieur, qui ne seront pas nés de nouveau. Qui seront obligés d'être des adhérents de Dieu mais qui ne seront pas sauvés. Dieu va les détruire. Et à la fin, nous avons vu, à la fin du millénium, il va y avoir le jugement dernier. Nous avons étudié cela, nous avons vu que les gens vont ressortir de l'enfer. Dieu va faire mourir tous les inconvertis à ce moment-là, nous le savons, à la bataille à Gog et Magog. Et puis, à ce moment-là, il va y avoir la troisième phase aussi, la première résurrection. Ça, c'est la résurrection des justes. Mais nous avons vu qu'il y a la résurrection des justes et la résurrection des injustes. Et la résurrection des injustes, c'est tous ceux qui seront en enfer. Ils vont ressortir. Et là, nous savons qu'ils vont ressusciter avec un corps de la honte. Nous serons là aussi pour les juger. Selon leurs œuvres. Et là, nous prononceront leur jugement. Ce sera le lac de feu. La seconde mort. Je vous rappelle une chose, que tout être spirituel, c'est-à-dire soit les anges, soit les hommes, ce sont les deux catégories d'êtres spirituels, ne cessent jamais d'exister. Ils ont un commencement, mais ils n'ont jamais de fin. Donc ça veut dire qu'obligatoirement, il y a deux possibilités. Soit la vie éternelle avec le Seigneur, pour l'éternité, soit la mort éternelle, qui est ni plus ni moins ce que la Bible aussi appelle la
géhenne,
la seconde mort, c'est-à-dire ils sont jetés dans le lac de feu et de soufre avec leur corps ressuscité, le corps de la honte. C'est ce qui est réservé à tous ceux qui n'auront pas reçu Jésus-Christ comme sauveur personnel. Nous savons aussi que le diable et les démons seront jugés par nous d'ailleurs et qu'ils seront aussi jetés dans le lac de feu et de soufre. Donc ça, c'est très clair dans la parole de Dieu. Je vous rappelle que l'enfer n'a pas été créé pour que, ni l'enfer ni le Tartaros n'ont été créés pour que les hommes ou les démons y restent pour l'éternité. Ils y resteront jusqu'au jour du jugement dernier. À partir du jugement dernier, l'enfer, le Tartaros, l'abîme entier sera jeté dans le lac de feu et de soufre.
Et
ça sera la fin du mal. Ça sera la fin du mal. Tous les hommes qui n'auront pas servi Dieu, qui ne seront pas nés de nouveau et qui seront morts comme cela,
physiquement,
eh bien, ils seront jugés et ils seront mis hors d'état de nuire. Satan et les démons, pareil. Donc Dieu va mettre tous ses ennemis sous ses pieds. Nous avions commencé donc le chapitre 21. Et c'est là où Dieu va nous amener. Dans la dimension de l'éternité. Les deux derniers chapitres de l'Apocalypse nous montrent cette cité. C'est notre espérance vivante. Vous savez, vous n'êtes pas sauvé pour rester au troisième ciel. Le troisième ciel est merveilleux. Mais
ce
n'est pas la finalité du plan de Dieu.
Il
faut bien le comprendre, frères et
sœurs.
Parce qu'il y a beaucoup de gens, on leur dit, tu es sauvé, ok, tu vas aller où après la mort?
Je vais
aller au ciel. Okay, alors je vous rappelle que souvent les gens ne savent même pas ce que ça veut dire le ciel vraiment. Le ciel, ça veut dire, tu vas aller dans les nuages?
On
a regardé toute la description du ciel. Là, on va encore en voir plus. Mais même le ciel, même la présence du Seigneur au troisième ciel, ce n'est pas la finalité. C'est un temps de transition extraordinaire dans la gloire de Dieu. Mais
ce
n'est pas le plan final de Dieu pour nous. Le plan de Dieu final pour nous, c'est comme nous allons le voir ce soir, que nous venions vivre avec lui sur sa propriété. Ça, c'est quelque chose qu'on va étudier ce soir.
Et
je vais vous montrer ce que le Seigneur vous réserve. Parce que Dieu nous réserve des choses extraordinaires. Et son plan merveilleux qu'il avait en Adam et
Ève,
il va le réaliser. Le jardin de délices, c'est-à-dire le jardin d'Éden. Éden, ça veut dire délice. Paradis sur terre. Dieu n'a pas oublié ça. Vous allez comprendre quelques clés ce soir importantes. Vous savez, il y a des religions qui disent une chose. Je crois que c'est les bouddhistes, si mes souvenirs, qui disent ça. Ils disent en fait, le monde spirituel, il y a c'est ça qui est important, il n'y a que ça de bon. Mais le monde matériel, non, ce n'est pas une bonne chose. Mais Dieu a créé le monde matériel. Dieu a créé l'invisible et le visible. Mais le monde visible a été perverti par le péché. La terre a été souillée par le péché. La propriété immaculée au départ de Dieu, quand il l'a créée, a été souillée par le péché. Regardons Romains chapitre 8. Romains chapitre 8 nous parle de quelque chose qui est vraiment merveilleux. Romains 8, verset 22. Or nous savons, regardez bien ce passage, vous allez comprendre. Ça nous parle, c'est un passage qu'on appelle eschatologique. Rappelez-vous que l'eschatologie, c'est l'étude de la fin des temps. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Verset 23. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps.
Ariko natwe abafise umushuzo wa mpwemu natwe nyene tunihira mu mitima yacu twiteze gucika abana b'Imana niko gucungurwa ku mibiri yacu.
La Bible nous dit que la création tout entière.
Bivuga ngo ivyaremwe byose.
La création tout entière.
Ivyaremwe byose
souffre.
Binihira
soupire.
Binihira hamwe
les douleurs de l'enfantement.
Ngo bikaramukigwa. En
ce moment, nous sommes dans les douleurs de l'enfantement. Parce que nous savons que ce qui se passe aujourd'hui, la terre dans la condition dans laquelle elle est, n'est pas la volonté de Dieu.
Ce
n'est pas du tout la volonté de Dieu. Mais ça a été le fait du péché d'Adam et Ève. Le péché est entré dans le monde, comment ? Par Adam. Maintenant, la Bible nous parle qu'il y a des douleurs de l'enfantement
actuellement.
Regardons ensemble juste ce qu'il dit un peu plus tôt. On aurait peut-être dû commencer par là d'ailleurs. Regardons verset 18 jusque. On va lire à partir du verset 18. Il est dit : J'estime que les souffrances du temps présent ne saurait être comparé à la gloire, regardez bien, la gloire à venir qui sera révélée pour nous. La gloire à venir, donc, qui sera révélée pour nous. Donc, ça veut dire que ce n'est pas encore révélé. Ça va venir. Mais cette gloire n'est pas encore révélée. La gloire dans laquelle tu seras n'est pas encore révélée. Pour l'instant, tu es né de nouveau, tu as la gloire de Dieu en toi. Mais dans ton âme et ton corps et ta vie complète, la gloire dans sa plénitude, la gloire de Dieu dans sa plénitude n'est pas encore révélée. Tu ne peux vivre qu'une portion de sa gloire. Verset suivant, s'il vous plaît. Verset 19. Aussi la création, regardez bien, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création soupire après cela. Les anges, les archanges, les chérubins, les séraphins soupirent après nous, frères et sœurs. Ils disent vivement que ces glorieuses créatures, ces nouvelles créations, soient complètement dans le royaume de Dieu qui sera instauré sur la terre. Verset 20. Car la création a été soumise à la vanité, vous voyez, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise. Rappelez-vous, c'est Adam. Avec l'espérance, rappelez-vous que l'espérance est toujours quelque chose de futur.
Vous
voyez, quand un jour rien ne va dans votre vie, que vous êtes par terre, que les pires choses vous arrivent, lisez ce passage-là, ça va vous donner du courage pour vous relever. Avec l'espérance qu'elle sera aussi affranchie de la servitude de la corruption. Aujourd'hui, la terre a été soumise à cause du péché, elle est remplie de la corruption du péché. Pour avoir part à la liberté glorieuse ou de la gloire des enfants de Dieu. C'est exactement ce que va faire cette création que Dieu va faire de cette nouvelle terre et des nouveaux cieux.
Ça
sera la révélation des enfants de Dieu. La plénitude. C'est ce qu'on appelle la consommation du salut. C'est-à-dire le fait que notre salut soit complètement accompli. Tu dis aujourd'hui je suis sauvé. Oui, ton esprit est parfaitement recréé. Tu dis, mon âme est en cours de restauration. Gloire à Dieu, tu changes ta mentalité, tu avances, tu vois de plus en plus Dieu agir dans ta vie. Ton corps, lui, tous les jours, il vieillit. sauf le mien, parce que je suis jeune comme un jeune homme.
Ah,
j'ai appris une chose, c'est à renouveler mes forces tous les jours. Donc je peux courir comme un jeune homme plus vite que Steve encore. Donc notre corps vieillit tous les jours et nous savons que notre corps est voué à la destruction. Et nous savons que ce jour-là, nous allons au troisième ciel dans la présence du Seigneur. Avec toutes les merveilleuses descriptions, entre autres d'Apocalypse 4 que nous avons étudiées. Mais ça, ce n'est pas encore la consommation du salut. Ensuite, nous savons que quand Jésus va revenir la première fois, l'enlèvement de l'église. Soit si nous sommes au troisième ciel, nous allons ressusciter. Ou soit nous allons être transformés, mais nous allons retourner au troisième ciel avec notre corps.
Ressuscité.
Corps immortel. Corps incorruptible. Ça, c'est une étape. Mais ce n'est pas encore la consommation, l'accomplissement total de ton salut. On va revenir avec Jésus pour écraser l'Antichrist et toutes les armées qui ont été contre Israël. Et nous régnerons 1000 ans sur la terre avec Christ. Mais là, la création ne sera pas encore délivrée de la corruption du péché. On l'a vu dans le millénium. Ce sera merveilleusement extraordinaire. Mais ça ne sera pas encore parfait dans le sens où immaculé et que là, il n'y aura plus de traces du péché sur la terre.
Ce
n'est pas encore la consommation, l'accomplissement total de votre salut. Est-ce que vous saisissez les choses? C'est important de bien comprendre ça. Il faut comprendre le plan global de Dieu. Là où vraiment ça sera la consommation, l'accomplissement, donc total, la révélation totale de notre salut. Et je reviens entre le monde spirituel et le monde matériel, le monde physique. Rappelez-vous, je suis parti de là tout à l'heure. C'est qu'il va y avoir à nouveau une relation parfaite entre le monde spirituel et le monde physique. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Par exemple, vous regardez un arbre, vous voyez, il peut avoir des maladies, il peut, des feuilles meurent, etc. Parce que la création tout entière a été soumise à la corruption du péché. Partout, nous voyons la vie qui essaie de se manifester et la mort qui se manifeste dans toute la création. Même nous qui avons la foi, nous voyons dans nos vies des choses qui meurent et d'autres qui vivent. Donc, on voit que la terre a été tellement touchée par la corruption du péché que ce n'est pas la consommation du salut. Qu'il y a toujours la foi qui doit venir d'abord à partir des choses de Dieu pour que Dieu se manifeste. Qu'est-ce qu'il faut? Dans le naturel. Nous savons que d'abord ça doit se passer dans le surnaturel. Et tant qu'il n'y a pas la foi, nous savons que le naturel résiste à se plier à l'autorité et à la seigneurie de Dieu. Par exemple, tu peux avoir des symptômes dans ton corps et tu es obligé de faire manifester ta foi. Et les symptômes disent, non, je suis encore là. Et tu dis non, parce que tu dois te soumettre au nom de Jésus et partir. C'est la même chose, par exemple, pour les finances. Ou pour toutes sortes de choses. Ou vous voyez que ce monde résiste parce qu'il y a l'esprit de ce monde.
igaragaza urupfu no kugwanya iby'Imana kuko ni impwemu y'isi.
Et qu'il faut constamment mettre une pression si tu veux voir le monde naturel physique se plier sous tes pieds.
Bigasaba yuko habaho kwemezwa no guhagarara handi hantu kugira ngo isi ice bugufi imbere
y'ishaka. Pourquoi? Parce que il y a cette bataille entre la vie divine qui est en toi.
Kubera ko haguma hi intambara hagati y'ubuzima bw'Imana buba muri wewe.
Et tout ce qui peut t'entourer.
Nibigushobora kugukikuza byose.
Parce que ce monde a été soumis à la corruption du péché. Mais bonne nouvelle, un jour ça va s'arrêter. Ça c'est la consommation du salut. Apocalypse chapitre 21. Ah, j'aime bien enseigner parce que sur les perspectives divines, ça c'est merveilleux. Ça montre la grandeur, la puissance de Dieu. Ça nous fait sortir de tous nos petits trucs de tous les jours.
Je vous
assure, ça sera, c'est un moteur extraordinaire. Quand tu vois avec les yeux de l'éternité, les défis que tu as tous les jours, ça doit inspirer. Vous savez, ce qui est important dans votre vie, c'est de voir et de goûter la grandeur de Dieu. Parce que croyez-moi, quand vous savez pleinement dans votre esprit que Dieu est immense et très grand,
ce
qui pourrait vous paraître des montagnes quand vous êtes là en train de vous apitoyer sur votre sort, ça devient tout petit. Parce que vous voyez de la montagne de Dieu. Vous voyez avec les yeux de Dieu. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Verset 2. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'était parée pour son
époux. Kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byagiye n'ikiyaga nticari kikiriho mbona umugwa wera Yerusalemu musha wururu kuva mu ijuru ku mana witeguye nk'umugeni asharizwa umugabo wiwe.
Alors quand nous lisons cela,
iyo dusomye ibi bintu,
cela nous fait penser à quelque chose.
Bica bitwibutse ikintu kimwe.
On dit finalement,
tukavuga duti none,
bah Dieu va tout détruire,
mbega Imana izofata ibintu byose bisambuye,
et il va tout recréer. Quand on lit comme cela dans nos différentes traductions, on se dit, bon, Dieu va faire une nouvelle terre, des nouveaux cieux. La terre, le ciel n'y était plus. Donc ça veut dire qu'il va tout détruire et tout refaire.
Eh
bien non. Non, ce n'est pas ça qui est dit dans le texte original grec. Moi, c'est ce qu'on m'avait enseigné au début de ma conversion, c'est ce que je pensais aussi. Que Dieu allait tout détruire la terre, il allait détruire les cieux, et qu'il allait tout recréer. Non, ce n'est pas comme ça que la Bible nous dit ici. Et nous allons le découvrir. Parce que souvent, malheureusement, on a des enseignements qui parfois ne sont pas faits par des gens qui ont étudié profondément la parole. Et quand on était aux États-Unis, la première fois où j'ai entendu que Dieu n'allait pas tout détruire, j'ai dit qu'est-ce que c'est que cette fausse doctrine ? Mais après j'ai eu quelques explications et après j'ai été fouillé moi-même. Parce que c'est important de croire ce que la parole de Dieu dit. D'accord. Donc ça c'est fondamental parce que si on commence à dévier vers des choses à cause des traductions, parfois les traductions nous trompent. En fait, ici, le mot grec est utilisé par nouveau ciel et une nouvelle terre. Nouvelle. Alors, il faut comprendre que c'est un mot grec. Il y a deux mots grecs qui ont été traduits par nouveau. Non, mais justement, on va faire la différence, tout à fait, c'est même en français. Ces deux mots grecs sont toujours traduits par nouveau. Et en fait, il faut comprendre que ces deux mots grecs ont une signification très différente. Il y a un mot grec qui est le mot néos. Et il y a un autre mot grec qui est kainos. Et ces deux mots grecs sont toujours traduits dans toutes les langues par nouveau. Et pourtant, ils ont dans le grec original une signification très différente. Alors, le premier, néos, ça veut dire quelque chose de neuf qui n'a jamais existé avant. Par exemple, si on était né dans les années 1930 ou 1950,
c'est-à-dire,
disons, il y a 80 ans environ, eh bien, les téléphones qui existaient, c'était seulement les téléphones avec fil. Les téléphones portables n'existaient pas. Et fin des années 80, début des années 90, on a commencé à faire cette nouvelle technologie qui n'existait pas avant. Et on a inventé les téléphones portables. Ça, c'est Néos. C'est comme vous êtes, nous sommes des nouvelles créations, des néos. Dis à ton voisin, t'es un néos. Ça veut dire quelque chose, que quelqu'un qui n'a jamais existé avant.
Oui,
quelque chose qui n'a jamais existé avant. Alors maintenant, il y a un autre mot, c'est kainos. Et kainos, ça veut dire renouveler en qualité.
Kainos n'ouvre ngo charusha chongewe ubgiza.
Refait à neuf.
Chagizwe gishasha cha subiwe mwo kikaba gishasha.
Alors par exemple, vous avez une maison à Kabondo.
Dufaterero ufisinzo.
Quartier des années 80 quelque chose.
Mukabondo ikartia kera myaka 80 gutyo.
Et là, vous allez trouver une maison qui a vieilli.
Ugasanga hari inzu ishaje.
Par exemple, si le propriétaire n'a jamais refait sa maison.
Ugasanga dufate abaho ntibayisubiyemo.
Voilà, vous arrivez dedans, ben les peintures sont vieilles.
Ugashikaho ugasanga marangi yarashaje.
Vous avez le merveilleux ciment rouge qui n'existe qu'au Burundi.
Ugatangura kubona ya sima itukura iba mu Burundi gusa.
Et puis vous avez des fenêtres qui commencent à rouiller un peu à l'ancienne.
Hanyuma amadirisha ugasanga yatanguye kujako ingese arashaje.
Vous avez des tuiles qui commencent à être plus très imperméable, parce que quand la pluie tombe, vous avez des gouttes qui tombent parce que les tuiles sont trop vieilles. Et un jour, qu'est-ce que vous faites? Vous dites, voilà, j'ai de l'argent. Je vais refaire cette maison. Et
bien
là, vous kainosez la maison.
C'est-à-dire,
ça veut dire que vous n'allez pas la raser. Pour construire une complètement différente. Mais vous gardez les fondations, vous gardez les murs. Vous enlevez toute la toiture parce qu'elle est pourrie. Vous cassez ou vous refaites une salle de bain supplémentaire. Vous mettez du carrelage par terre. Vous changez les portes, les fenêtres, etc. Et là, vous allez dire, ma maison est toute neuve. Dans sens, elle vient d'être refaite à neuf. Et là, c'est le mot grec kainos.
Vous
voyez,
il
veut dire renouveler. Je prends quelque chose qui existe déjà et je vais le refaire à neuf. Et c'est exactement ce mot qui est utilisé ici. Nouveaux cieux et nouvelle terre. Ça serait mieux de dire un renouvellement de la terre. Et un renouvellement du ciel. Dieu va modifier les choses, mais il va reprendre. C'est-à-dire, Dieu ne va pas anéantir la matière et recréer toute la matière. Parce que Dieu a créé de la matière, le monde visible. Puis il a arrangé cela au deuxième ciel et au premier ciel.
Terre.
Il avait mis un ordre divin.
Le
péché a désordonné l'ordre divin.
Et quand
le Seigneur va nous faire venir vivre sur cette terre avec lui, Dieu va remettre de l'ordre divin d'une façon très spéciale. Donc c'est un renouvellement. C'est ça, comme ça qu'il faut lire les mots grecs ici. Sinon, ça nous fait dire n'importe quoi. Donc Dieu ne va pas du tout détruire tout, anéantir tout et tout recréer. Il va créer des choses en renouvelant la terre, ça c'est clair, et le ciel. Mais en aucun cas, tout va être anéanti pour que tout soit recréé. Alors, comment est-ce que Dieu va faire ces choses? On a un verset qui nous en parle dans la parole de Dieu. C'est dans 2 Pierre 3, 12 et 13. 2 Pierre, chapitre 3, 12 et 13.
Petero kabiri gatatu na
Alors, on va lire juste un petit peu voilà, le verset 11, hein, histoire de voir. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété. Verset 12. Tandis que vous attendez et hâtez l'événement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Verset 13. Mais nous attendons, selon sa promesse, des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera.
None ko ibyo byose bizoshonga bityo mukwiye kumera mute mu ngeso zera no mukubaha Imana no mukurereka ukuza ku munsi w'Imana muhahamiye uzotuma amajuru ashongeshwa no gusha kandi ibyitanguriro byose bikayagishwa n'ikibengebenge gikaze.
Donc en fait, on s'aperçoit très clairement ici que Dieu va faire fondre tout ça.
Abatugira ngo bizoshonga.
Dieu par le feu va faire fondre toute la croûte terrestre.
Imana izofata umuriro ishongeshe iki kirere cyise.
C'est ce que ce verset semble clairement nous montrer.
Nibyo umurongo ushatse kutwereka.
Et à partir de ça, Dieu va recréer la surface de la terre, donc la croûte terrestre.
Hanyuma rero imaze kubishongesha isubire ishireho bishasha.
Et faire disparaître
izimanganye
toute trace
ikimenyetso cyose
de la création et la corruption du péché telle que la terre la connaît aujourd'hui.
Ikimenyetso cyose nakamenyetso kose kasizwe n'icaha uko tubibona uyu munsi.
Rappelez-vous que pendant le millénium, on verra encore la corruption du péché.
Mwibuke ko muri ya myaka igihumbi ngaje ya Kristo tuzokongera kubona ahicaha cyaciye udusembwa tuva kwicaha.
Dans les nouveaux cieux et nouvelle terre.
Mu majuru mashasha n'isi nshasha.
Donc renouvelé. Dieu va faire complètement disparaître
Imana izozimanganya
toute trace de la corruption du péché.
Ikimenyetso cyose cyahicaha.
Donc il va utiliser la matière qui existe.
Izofata ibyari bisanzwe bihari.
Brûler toute la surface de la terre, faire fondre la surface de la terre.
Ifate isi iyishongeshe
et recréer ce qu'il veut recréer sur la terre, la surface de la terre.
Kuyishongesha ihinduremwo ibintu bishasha.
C'est pour ça que les continents ne seront plus tels quels.
Nico gituma ibihugu za Afrika n'izindi ntizosubira kumena nkuko zimeze.
Et même les planètes ne seront plus ordonnées de la même façon.
Namasi uko tuza panze uyu munsi ntazoba gipanze nkuko apanze.
Je vais vous le montrer dans l'écriture.
Et bien d'ailleurs comme ijambo ry'Imana.
Vous savez, la parole de Dieu nous révèle beaucoup de choses.
Buri ijambo ry'Imana rivuga ibintu byinshi.
On n'a pas toute la révélation sur comment et qu'est-ce que Dieu va faire à ce moment-là. Mais dans le chapitre 21 et 22, nous avons une certaine révélation. Alors, la Bible nous dit, regardez bien au verset 1, « Je viens des nouveaux cieux et une nouvelle terre, donc renouvellement, maintenant vous avez compris, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et regardez bien, la mer n'était plus. La mer n'était plus. » Moi j'aime bien l'eau, j'espère que le Seigneur nous donnera de l'eau encore. La Bible n'a pas dit que les lacs vont tous les lacs vont disparaître. Non, certainement qu'il y aura de l'eau sur la terre encore. Nous verrons, c'est évident. Mais apparemment, Dieu va complètement modifier les continents et les mers telles qu'elles sont actuellement. Vous savez, on profitera de la vie d'une façon extraordinaire. Joie totale, paix totale, bonheur total. Vous allez voir, il y a des choses très intéressantes. Alors, maintenant, Jean va voir quelque chose à propos de la Nouvelle Jérusalem. En fait, le Seigneur commence à lui montrer un certain nombre de choses sur la révélation de l'éternité. Et avec des caractéristiques sur lesquelles Dieu va revenir le long des chapitres, de ces deux derniers chapitres. La Bible nous dit au verset 2, « Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Alors, les nouveaux cieux, nouvelle terre, ce n'était pas une révélation, je vous rappelle, seulement du Nouveau Testament, dans l'Ancien. Nous avons vu dans Ésaïe, c'était déjà révélé. Et on voit que aussi concernant la Jérusalem céleste, il y avait, bon, nous avons vu qu'Abraham attendait une cité, une ville.
Mais
bon, on n'avait aucune précision. Regardons par exemple, même Jean dans l'Apocalypse 3, verset
12.
Apocalypse 3, 12 nous parle aussi de cette Jérusalem céleste. Et il est parlé donc, celui qui vaincra, donc ça c'est toujours Jean qui reçoit au début la révélation, hein, puisqu'on est au début de l'Apocalypse ici, chapitre 3, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et n'en sortira plus, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et regardez bien, le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau.
Unesha nzomugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanje kandi ntazosohoka kukundi nanje nzomwandika ku izina ry'Imana yanje n'iryo mugwa w'Imana yanje niwe Yerusalemu musha wururu kuvuye mu ijuru ku Imana yanje kandi nzomwandika ku izina ryanje risha.
Alors on voit ici que Jean va entendre parler de c'est Jésus qui parle et qui lui dit voilà, voici ce qui va se passer pour le vainqueur, et il parle de cette Jérusalem qui va descendre, cette Jérusalem céleste. Et là encore, ce n'est pas une révélation nouvelle. Parce que dans Hébreux 12, verset 22, on va avoir une mention de cette Jérusalem céleste. Hébreux, c'est écrit bien avant la révélation de l'Apocalypse. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, que je pense être Paul, même si
ce
n'est pas mentionné au début du livre,
mais
vu la connaissance qu'il y avait chez l'apôtre qui a écrit l'Épître aux Hébreux,
bien,
à part Paul, je ne vois pas qui aurait pu écrire une telle épître. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? C'est que l'apôtre va parler de la Jérusalem céleste. Regardez bien. Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité, la ville du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges.
Mwegereye umusozi Siyoni n'umugwa w'Imana nzima Yerusalemu ho mwijuru n'ikoraniro rikuru gisinzi ry'abamarayika.
Il parle de ceux qui adorent Dieu, c'est-à-dire de nous.
Ariko avuga abasenga Imana abahimbaza Imana twese.
Et à chaque fois que nous sommes dans la présence de Dieu, que nous nous approchons de Dieu.
Gukecho se twegereye ubwiza bw'Imana turi mu bwiza bw'Imana.
Eh bien, nous nous approchons de quoi? La Jérusalem céleste.
Tuba twegereye iki Yerusalemu yera.
Comment est-ce que quelqu'un, un apôtre,
ni gute intumwa
qui n'aurait pas eu une vision céleste,
atari kuba yeretswe iby'ijuru
pourrait parler de la Jérusalem céleste.
Yari gushobora kuvuga ibya Yerusalemu yera.
Jésus n'en a pas fait mention, il a dit je vais vous préparer une place dans le ciel.
Yesu ntavyavuga ibya Yerusalemu yera, yavuze ati gusa ngiye kubategurira ikibanza mwijuru.
Mais il n'a pas parlé en tout cas ouvertement d'une Jérusalem céleste.
Ariko ntahavuga ngo Yerusalemu yera, ngo Yerusalemu nshasha.
Par contre, l'auteur de l'épître aux Hébreux ceux qui peuvent en parler en tant qu'hommes avec une vraie révélation, c'est ceux qui ont été ravis en esprit.
Et
nous savons dans 2 Corinthiens 12 que ça a été le cas de Paul. Paul a été au troisième ciel, il le dit lui-même. Et nous savons qu'évidemment, il a vu le Seigneur et il a vu la Jérusalem céleste. C'est pour ça que, franchement, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, si ce n'est pas Paul, je ne vois pas trop qui c'est, ou en tout cas, il faudrait quelqu'un, moi, qui ait une vision, qui sache parler du monde invisible du troisième ciel de cette manière-là. Mais on n'a pas plus d'informations sur cette Jérusalem céleste.
Il n'y
a pas de description dans la parole de Dieu. Sauf au
chapitre
21. Et c'est là où Jean va nous donner plus de précision sur cette ville. Alors, verset 3, il est dit: j'entendis du trône une voix forte qui disait, donc c'est Jean qui parle, il entend de la part du trône de Dieu une voix forte qui dit: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Donc c'est clair, Dieu va habiter, c'est le grand rêve de Dieu. Le grand rêve de Dieu, je vous rappelle, c'est d'habiter parmi son peuple. De régner parmi son peuple. Un peuple parfait, avec un Dieu parfait, dans un environnement parfait. Donc un Dieu trois fois saint, qui habite au milieu d'un peuple trois fois saint et qui ne peut plus pécher, qui est incorruptible. Dans un environnement qui est immaculé, c'est-à-dire qui n'est plus touché, qui n'a plus aucune trace de péché. Ça, c'est le rêve de Dieu. Ça a été le plan de Dieu avec Adam et
Ève.
Et comme je vous le disais, Dieu n'a pas abandonné son plan originel. Mais Dieu va le réaliser. Donc, Dieu parfait, une création parfaite, nous, dans un environnement parfait, le monde spirituel, en parfaite harmonie avec le monde matériel. Tout est parfait. Voilà, c'est ce que Dieu va faire, c'est ce que Dieu veut réaliser. C'est exactement cette déclaration qui est faite. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, habitera
avec eux.
La Bible nous dit au verset 4, il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ces premières choses ont disparu.
Et
Dieu dit cela, pourquoi? Parce qu'il n'y aura plus de traces de corruption du péché. C'est difficile de s'imaginer un tel monde. Tellement nous voyons tout ce qui se passe autour de nous. Tu sors de chez toi, tu vois des gens qui souffrent. Tu vas dans les hôpitaux, tu vois des gens en train de mourir de maladies. Tu vas au boulot, tu vois des gens qui corrompent et qui font n'importe quoi. Tu vas au marché avant qu'il brûle. Et tu te fais voler ton sac. Oui, plein de choses. tu rencontres quelqu'un qui joue les gentils et cherche à te tromper.
Donc
ça nous est difficile parfois de comprendre qu'il va y avoir un environnement parfait, avec donc Dieu parfait avec nous qui serons parfaits dans un environnement parfait.
Kumva ko hazoba ikirere ibyo byose bitazoba birimo isi bitazoba birimo biragoya ko tubitahura
twebwe. Et pourtant c'est ce que Dieu nous dit.
Ariko n'icyo Imana itubwira.
Donc ensuite la Bible va nous dire la chose suivante. Celui qui était assis sur le trône dit voici je fais toutes choses nouvelles. Donc je renouvelle toutes choses. Je fais un environnement parfait. C'est ça que ça veut dire.
Burungu gatanu ngwivyagira kuri ya ntebe iravuga itira aba byose ndabihindura bisha.
Écris ces paroles qui sont certaines et vraies.
Kanda iti andika kuko aya majambo arayo kwizego nayo kuri.
Dieu dit clairement c'est ça qui vous attend.
Imana iravuga neza ati ibi nivyo bibarindiriye.
Pour ceux qui vont me servir et m'aimer. C'est un message d'amour de la part du Créateur vers la création. Un appel à la repentance et à la foi en Christ. Parce que ces choses-là sont réservées pour nous. Aussi incroyable par Estelle. C'est réservé et ça, pour nous et ça se produira sans appel. C'est la souveraineté totale de Dieu. Verset 6, il dit, il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin.
Et
ça, je vous rappelle une chose. Dieu est le commencement de toutes choses, mais il est aussi la finalité de toutes choses. Alpha, oméga, vous rappelez première lettre et dernière lettre de l'alphabet grec.
Imana niyo ntango y'ibintu byose kandi niyo herezo y'ibintu byose alpha no kuvuga ni nka a niyo ntango y'ikigiriki mu majambo y'ikigiriki hama omega niyo jambo rihereza muri alpha
b'ikigiriki alpha c'est-à-dire qu'il est l'origine de toute chose
bavuze ngo ni alpha no kuvuga ko niwe soko intango y'ibintu byose
rien de ce qui existe existe sans dieu
nana kimwe mu bibaho bitabeshejweho
n'Imana. Tout ce qui existe existe parce que Dieu l'a créé.
Ibintu byose bibaho kuko Imana yabiremye.
Il est l'alpha, il est l'origine de toute chose.
Niwe soko, niwe ntango, niyo nkomoko ya byose.
Et ça c'est ce que nous croyons, Dieu est l'Éternel. Celui qui existe par lui-même.
Kw'Imana ari uhoraho ibaho kubgayo
yari. Celui qui n'a jamais été créé.
Ntiyigeze iremwa yaribeshejeho.
Par contre, nous savons aussi
icyo tuzi
qu'il est la fin de toute chose. Que c'est lui qui a écrit la fin de l'histoire de l'humanité. C'est ça que tu chantes quand tu chantes, il est l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. C'est de lui que procèdent toutes choses, origine toutes choses. Mais c'est aussi lui qui tient souverainement la fin des temps dans ses mains. À celui qui a soif, je donnerai la source de l'eau de la vie gratuitement. Dieu donne sans reproche. C'est la même chose qu'il est écrit au chapitre 22, donc Apocalypse 22, verset 17. C'est répété ça. 22-17, et l'Esprit l'épouse dit, viens, que celui qui entend dise, viens, et celui qui a soif, vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Dieu nous montre deux fois dans ces deux derniers passages qui concluent l'histoire de l'humanité, prophétiquement. Que Dieu a ses mains tendues vers l'humanité.
Il
dit, je vous aime. Vous êtes dans un monde qui a été pris par la corruption du péché. Mais je vous ai donné la solution. C'est gratuit. C'est l'eau de la vie éternelle. Que celui qui veut prenne de l'eau. Mais après, ce sera trop tard. Après, ce sera trop tard. Ce sont des choses que le Seigneur dit à l'humanité depuis 2000 ans maintenant. Aimez-moi, servez-moi. Soyez graciés de vos péchés. Tout est gratuit. Vous avez juste à venir, à vous repentir et à m'accepter comme sauveur personnel. Et tout ce qui est dit dans cette parole sera pour vous. Ça, c'est la position de Dieu. Le jour où la porte sera fermée, ça sera fermé. Le jour où l'homme meurt physiquement, sans avoir reçu Jésus, c'est-à-dire en étant mort spirituellement, séparé de Dieu,
c'est fini.
C'est terminé. C'est la mort éternelle. Ça sera la finalité de ceux qui n'auront jamais accepté Jésus. Verset 7, il dit, tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Rappelez-vous, dans Apocalypse 2, verset 7, je vais lire rapidement, c'était les versets que nous avions étudiés quand Jésus a donné le message aux sept églises. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Donc, l'arbre de vie, nous allons le voir dans le paradis de Dieu. Nous allons voir cela. C'est marqué un peu plus loin dans l'Apocalypse. Verset 11. Toujours Apocalypse 2. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort.
Verset 17,
toujours chapitre 2. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra, je donnerai la manne cachée, je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit.
Verset 26,
encore à celui qui va vaincre. Celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Chapitre 3, verset
5.
Il est dit, celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai mon nom devant mon Père et devant ses anges.
Verset 12,
et après on verra le verset 21, il est dit, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau.
Verset 21, chapitre 3,
celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Donc, verset 7 d'Apocalypse 21, tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai mon son Dieu et il sera mon fils. Ça implique toutes ces choses ici. Et Dieu prévient à nouveau, verset 8. Il dit pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang brûlant de feu et de soufre. C'est cela la seconde mort.
ariko ibijora n'abatizera n'abakora ibizira n'abicanyi n'abashakanyi n'abarozi n'abasenga ibigirwamana n'abanyabinyoma bose umugabane wabo uzoba mu kiyaga cako muriro n'amazuku nico rupfu rwa kabiri.
Et là bien sûr Dieu redonne des avertissements aux pécheurs.
Imana urumva yongeye kugabisha abanyavyaha.
Donc c'est clair, avec Dieu il y a deux camps.
Hamwe n'Imana rero biratomoye imigwi nibiri gusa.
Ceux qui le servent et qui verront vraiment toutes ces choses glorieuses pour l'éternité.
Imigwi nibiri harabayikorera bazobona ibi bintu byose ibihe bitazoshira.
Ils sont nés de nouveau.
Abona kuba abavutse ubwa kabiri.
Mais pour ceux qui refuseront de le servir.
Ariko abazokwanka kuyikora.
Qui refuseront de croire en lui.
Abazokwanka kuyizera.
Qui ne naîtront jamais de nouveau.
Tazokwigera bavuka ubwa kabiri.
Eh bien, ils auront ce jugement sur eux.
Bazohura n'uru rubanza ku buzima bwabo.
Et ça sera fini.
Kandi bizoba biheze kuri.
Le lac de feu et de soufre.
Dieu
dans sa parole prévient, avertit.
Imana mu ijambo ryayo iragabisha.
Redit.
Iravuga igasubiramwo.
Et les gens doivent mettre leur vie en ordre avec le Seigneur.
Abantu bagasabwa gutunganya ubuzima bwabo n'Imana.
La semaine prochaine,
Mundwiza,
nous verrons une description
tuzoraba ingene
précise de ce que Jean a vu de la Jérusalem céleste.
Batomora kubijanye na Yerusalemu yera kuvyo Yohana yeretse.
On verra ça du verset 9
tuzobibona ku murongo w'icenda
jusqu'au verset 27.
Kushika ku murongo wa mirongo ibiri.
Nous verrons comment est faite cette Jérusalem.
Tubona ingene Yerusalemu yera ikozwe.
Toutes les caractéristiques et tous ceux qui viendront prophétiquement dans cette Jérusalem céleste.
Ibigenga byose nibizoba mu buryo bw'uvugishwa muri Yerusalemu.
Parce que c'est ce que Dieu veut qu'on apprenne dans sa parole.
Kuko ni vy'Imana igomba ko twiga mu ijambo ryayo.
Ce pourquoi.
Igituma.
Nous sommes créés aujourd'hui.
Turemwe turiho uyu munsi.
Et quel est l'héritage
niragi
qui nous appartient.
Quoi.
Vous savez, sur cette terre,
Mulinosi,
nous devons acquérir la connaissance de Dieu au maximum. Il semblerait clairement, d'après les Écritures, que ceux qui partiront avec très peu de connaissances sur la parole, sur l'éternité, vont parfaire leur connaissance au ciel, seront instruits. Sur tout qui est Dieu et l'espérance vivante qui nous attend. Mais ceux qui ont peu d'instruction dans la parole et dans la connaissance de Dieu seront ceux qui seront instruits par ceux qui auront été les plus récompensés. À toi de savoir si là-haut tu seras un grand instructeur ou si tu seras un petit élève de l'école maternelle.
Que Dieu vous bénisse.
Bonne soirée à tous. On continuera la semaine prochaine.
Nous espérons que cette parole vous a exhorté, édifié et réconforté et qu'en la pratiquant, la gloire de Dieu se manifeste au travers de vous sur terre. Nous invitons aussi à consulter le site www.enseignemoi.com. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter pour d'autres enseignements, appelez-nous au 00 257 22 24 13 39 ou par email mesburundi@yahoo.fr.